Un fleuve au-dessus de la tête, de Karine Lacroix. Réalisation Volodia Serre.
Je découvre l'art difficile de ne rien faire. Carnet, carte reste dans mon sac marin. C'est nouveau. Et de cette liberté, il m'arrive de m'étonner. Je saisis mieux l'expression désolée avec laquelle les Inuits me regardaient, mesuraient, calculaient, consignaient. À quoi bon, semblait-il dire, du papier ? Du papier ? Vis donc ! Nous l'avons bien vu, nous, Inuits, avec nos tueries comme un enfant. Coupe donc les amarres.
Jean Mallory, Les derniers rois de Thulé.
Je suis à la maison. C'est un peu la panique. Je dois partir loin, sur une autre planète pour vivre ma vie inversée. Le départ est difficile. Je pense à Sam qui reste, aux affaires que je dois prendre. On me parle, mais c'est hors champ. Je ne me souviens plus de qui parle. Je fouille les placards pour prendre mes affaires. Je vois un spray qui nettoie sans frotter. Dessus, c'est écrit « Mémoire ». Après, je me dépêche. Je passe dans des pièces qui ne sont pas ma maison. J'attrape des affaires. J'aperçois Sam dehors. Je veux lui dire au revoir, mais il marche à l'envers. Je ne sais pas s'il fait ça pour que je l'emmène ou pour m'embêter avant mon départ. Il faut que je lui dise que je pars pour vivre ma vie inversée. Pour voir de loin ce qui cloche, pour revenir plus forte. Et je me réveille.
Où vis-tu ? Marches-tu dans des flaques, des plaines, des villes ?
Quelle langue parles-tu ?
Entends-tu souvent ta langue ?
As-tu faim ?
Qu'est-ce que tu manges ?
Qu'est-ce que tu prépares ?
Sais-tu lire une carte ?
Si tu devais te situer sur une carte, ferais-tu un point noir, une croix bleue, un cercle rouge ?
Connais-tu le bout du monde ?
Que sais-tu de la Terre ?
A-t-elle des plaques, des croûtes, des cicatrices ?
Comment te décrirais-tu ?
À quoi te sert ta peau ?
Entends-tu le souffle des océans, des pierres, des bêtes ?
Te souviens-tu de tes rêves ?
As-tu déjà vu le cœur d'un oiseau ?
As-tu déjà imaginé tes poumons ?
Aimes-tu l'air que tu respires ?
Quel est le goût de la nuit ?
Entends-tu des voix ?
Qu'est-ce que je ferai à manger dimanche ? Moi qui n'aime pas cuisiner, je me réjouis. J'accrocherai des fleurs, des guirlandes, des plumes. J'allongerai la table, en emprunterai une autre. Et des chaises, des grands plats, des verres pour le vin. On boira, c'est sûr. Je dirais, n'apportez rien, seulement de la bonne humeur. Il faudrait que je trouve un plat de saison. Un repas consistant, qui nourrirait pour plusieurs semaines. Qui fêterait l'arrivée des frimas. Plus l'hiver s'installe, mieux je me sens. Le ciel froid, ses lumières, ses jeux d'eau et de neige, les parois de la nuit craquent, comme si devant moi passaient des icebergs. L'air pique. La buée flotte comme des halos d'argent. Je demanderai à Laurie des idées de recettes. Elle est toujours fourrée à cuisiner. Elle prépare à l'avance pour Tony, son mari routier. Avec Laurie, on a jardiné mitoyen. Deux carrés verts jaunes, séparés par un brise-vue déchiré. On pourrait le réparer ou changer la clôture. Laurie et moi, on est très différentes. Mais on a en commun d'être seules. Refaire la séparation, ce serait se jeter un verre d'eau à la figure. Et puis, elle aime bien Sam. Il joue souvent dans le jardin, dans sa cabane au pied de l'arbre. On dit que les glaciers fondent. Je les entends. Dans l'espace laissé par les oiseaux, quelle que soit la saison, je les entends couler. La nuit, j'habite sur les brouillards. Je dors le jour quand Sam est à l'école. Je vis dans une vallée au milieu des routes, au cœur de communes encollées les unes aux autres. Une longue zone urbaine et industrielle, traversée par le fleuve, la nationale et l'autoroute. Pas de sentier, ni de chemin, sauf le dimanche près de l'étang municipal. Les espaces verts sont secs et les arbres envahis de lierre. Il faut prendre la voiture pour trouver la forêt, les vergers, les villages. Les routes résonnent. Elles sont le poumon de la vallée, le clapot des jours, le chant du matin, la berceuse du soir. Les deux roues pétaradent au rond-point. Les trains de marchandises cornent sans s'arrêter. On se gare devant le tabac sans couper le moteur. Les cloches carillonnent les heures. Les courants d'air sifflent sous les portes. Ici, rois et reines ont fait halte. La Renaissance et des poètes ont laissé des traces. Si des fantômes pouvaient témoigner, les écouterait-on? Plateformes et usines ont remplacé châteaux et remparts, puissants vaisseaux amarrés aux collines. Nourris par le fleuve, dont ils aspirent et recrachent les eaux, enlacés de tuyaux et de cylindres, ils étincellent. Des fumées blanches s'échappent, blanches et infatigables. Puissants vaisseaux sans sommeil, dans leur ventre, les matières se fabriquent. À leurs pieds, fourmille la main-d'œuvre. Va-et-vient continu entre les portes des ateliers, les machines et les stocks, les turbines et les sas de sécurité. Ici, on produit tout. J'imagine ces vaisseaux s'ébranler et quitter leurs attaches. Entraîner avec eux comme des nappes, les maisons, les routes, les champs, les arches, le fleuve, et laisser derrière eux une nouvelle terre à habiter. Ici, les gens ne sont pas d'ici. Ils sont venus pour travailler. Certains sont restés, d'autres s'en vont. Ici, le travail ne manque pas. Moi, je n'en ai plus. Je suis en arrêt. Laurie m'a conseillé de demander à mes invités s'ils ont des allergies. Laurie est à la pointe de tous ces trucs, à cause de ses craintes existentielles et internationales. Elle est inscrite à un programme de dépollution énergétique. C'est pointu. Ça nettoie tout, la crasse des murs et de la tête. Elle essaie de me convaincre. Elle s'inquiète que je vive la nuit. Elle me file des post-it, il y en a partout chez elle, écrits en lettres capitales. Savoure l'instant. Active le présent. Ta gloire est ton succès intérieur. Sois toi-même. Comme si elle était sponsorisée par Coca-Cola. C'est quoi, être soi-même? Qui d'autre peut-on être à part soi? Je ne vois pas l'excitation, le challenge ou la philosophie, On est condamné à être soi-même. C'est plutôt une charge. Je préfère me défaire de moi-même. Dimanche, je serai la maîtresse de maison. Chaleureuse, souriante, avec un petit mot pour chacun. Je ne penserai à rien d'autre qu'à remplir les verres quand ils seront vides. À rire aux blagues. À écouter les avis des uns et des autres. À proposer un digestif, un café. Qui prend du sucre ? Au lieu de passer un dimanche avec Sam et moi-même. Comme tous les dimanches de l'année. Non pas que ces dimanches soient tristes, ils sont même doux, ils cajolent, mais ils se ressemblent, comme le reflet du miroir dont le regard croisé me fatigue. J'ai collé un post-it à côté de mon lit. Je n'ai rien écrit dessus. J'imagine. Un prénom. Une recette. Un pays du Nord. Je sors aux heures creuses. Pour les courses, les rendez-vous administratifs, médicaux. Quand dans les salles d'attente, on ne croise que le regard des vieux. Quand il n'y a pas de fil. 10 numéros avant soir. J'évite les mauvaises rencontres, les anciens collègues, les fausses questions. Une fois, à Intermarché, Dilara s'est trouvée dans la queue derrière moi. Je ne l'avais pas vue. J'ai senti son parfum. Ce parfum inventé pour tuer les mouches. J'étais pas sûre que ce soit elle, mais je ne voulais pas risquer de regarder. J'étais coincée dans la queue. J'ai fixé, droit devant. Puis j'ai entendu sa voix. Elle surjouait la surprise, comme si c'était incroyable de se croiser à Intermarché où tout le monde va aux mêmes heures. Elle a fait sa mielleuse, alors qu'au bureau, elle me faisait des sales coups.
Ça va ? Pas trop dur ? Tu t'es remise, ma pauvre ? Oh, t'achètes des danettes caramel, moi aussi, j'adore ! Et ça, c'est quoi ? Oh, c'est bien un spray qui nettoie sans frotter. Tu l'utilises pour la baignoire ? Moi, le rayon ménager, je pourrais rester des heures.
Elle faisait l'inventaire de mon caddie. Je l'aurais tué. J'ai dit, c'est quoi cette odeur ? T'as acheté du poisson, quoi ?
Non.
Ça doit être ton parfum. Fais gaffe, il a dû tourner ou t'as confondu avec un répulsif. Je dis ça pour toi, pour ta santé. Je voulais pas m'arrêter de parler. Je voulais plus l'entendre. Sinon, je lui crevais les yeux. Je l'assommais avec une sauce en pot. Dilara scannait mes produits sur le tapis roulant. Elle préparait ses commentaires pour le lendemain au bureau. J'ai enchaîné sur les insecticides, les trous dans la couche d'ozone, la fonte des glaces. En apnée pour ne pas respirer sa présence. J'ai envoyé un au revoir général, comme si je souhaitais une bonne soirée au magasin entier. J'ai filé droit sur le parking, sentant derrière moi 1000 petits yeux collants. J'ai balancé les courses dans le coffre. J'ai démarré en trombe. Éloignée de moi cette apparition brutale, ses souvenirs comme un cercueil de fleurs. Vivre la nuit, comme on dit, vivre un grand amour. Le jour se retire. La nuit sort de terre, monte sur ses pattes de velours. Indique le nord. Je me redresse, étire mes bras, mes jambes. Les courants d'air sifflent d'un même bâillement. Porte, lucarne, écorce, gorge, s'entr'ouvre. Je traverse le jardin givré. Renard bleu, loup solitaire, enfant rêveur, oiseau roux, vagabond, promeneur. Une flaque, je l'écraque. Un buisson remue. Les buées flottent, comme des bulles de questions. La nuit protège les ombres qui la traversent. Le chuchotement des voix, les corps engourdis. Suivre la route, longer le bord du fleuve. Quelle que soit la lune, les réverbères, les satellites, les fêtes, les feux, les pigments noirs dominent. Peau de pétrole, miroir obscur, acier trempé, comme un appel à oublier. La nuit avance, je marche dans ses pas.
Où vas-tu ?
À qui parles-tu ?
Regardes-tu le ciel, les marées, les tempêtes ?
Longes-tu des murs, des allées, des fleuves ?
Que vois-tu dans le noir ?
As-tu des frissons ?
As-tu peur de tes rêves ?
Entends-tu le mouvement des arbres, des oiseaux, du vent ?
Entends-tu ton cœur ?
Fait-il des vagues ?
Aimes-tu les battements, les oscillations, les tremblements ?
Sens-tu la terre ?
Entends-tu couler les fleuves, le sang, les larmes ?
À quelle heure rentres-tu ?
Qu'est-ce que tu cultives ?
As-tu des secrets ? Des fleurs, des cachettes, des fruits ?
Dépends-tu des saisons ?
Préfères-tu le chaud ou le froid ?
Qu'est-ce que tu ne digères pas ?
Que veut dire être vivant ?
Je vivais le jour. J'étais active. Est-ce que j'étais une autre personne ? Pas moi-même, comme dirait Laurie. Surmenée, comme dirait le docteur. Pourquoi est-ce que j'aurais été une autre personne ? Ma vie me convenait. Je l'avais choisie à ma mesure, à la hauteur de ma petitesse. Je croyais que vouloir suffisait.
Quand on veut, on peut.
Ce refrain plaqué pour motiver les troupes, les enfants, les travailleurs. Comme si tous, dès le départ, avaient le même pouvoir. Comme si la réussite ne dépendait que de soi. Je savais ce que je voulais, mais ce n'était pas concret. Comme un métier. À l'école, j'aimais les copines et apprendre. Surtout la géographie et les cartes. Je les lisais comme d'autres lisent des contes et légendes. La création de la Terre. Le mouvement des plaques tectoniques. L'histoire des civilisations et des peuples du froid. Il suffisait de poser le doigt sur un coin du globe pour que celui-ci s'anime de récits merveilleux et barbares à la limite du réel. Qui vivait là ? Qui j'aurais été si j'avais grandi là ? Puis je revenais au point où j'habitais, minuscule place qui me rassurait, qui valait celle de la Terre. En reculant dans la galaxie, elle devenait balle, bille, tête d'épingle, comme moi, comme les rois et reines, comme les amoureux, comme les footballeurs. Le travail ne posait pas de problème. Je n'ai jamais redoublé. J'ai vite signé mon premier contrat. J'en ai eu plusieurs sans avoir à m'inscrire au chômage. On disait que je présentais bien, que j'avais l'esprit d'initiative, le sens de l'organisation. On pouvait dire ce qu'on veut, ce qui comptait, c'était de dessiner ma carte, tracer les lignes de mon histoire, élargir les chemins, repérer les limites, tenir dans ma tête d'un même mouvement le grain de sable et le désert, la goutte d'eau et la cascade, une ligne et sa disparition. Le travail ne se réduisait pas au bureau, au salaire, à la machine à café. Il n'avait pas d'horaire. Il s'insinuait partout. Il n'était pas forcé ni imposé. C'était un pacte entre moi et la carte que je dessinais. Entre moi et les illusions qui tombent. Les chagrins qui déforment le visage. La routine à dépasser. Je ne voulais pas ressembler aux gens qui s'ennuient. Aux gens qui s'effondrent à la moindre goutte de pluie, au premier désaccord. Avant, la nuit n'existait pas. Je me couchais à 22h pour embaucher à 8. L'alarme du réveil chassait le sommeil et les rêves. La nuit se défaisait d'un coup. Parfois, le samedi soir, quand on revenait de Pizza Country, sur la route qui longe le fleuve, la voiture s'enfonçait dans la nuit, alourdie par le repas et le vin, les oreilles bourdonnantes. On franchissait le pont grinçant au milieu du brouillard. La nuit semblait profonde et inquiétante. On était content de rentrer à la maison. J'ai conservé une carte, la plus mystérieuse, la plus silencieuse, sans route, immensément blanche. Océan glacé, palais de cristal, mur de neige bleue, eau noire, soleil permanent ou nuit sans fin. Seuls les Inuits savent s'y repérer. Ils lisent les nuages, les halos, les brumes. Ils écoutent les sifflements du vent, le détachement des glaces, les mirages qui clapotent. Ils parlent avec la nature. Ils pensent avec leurs mains. Ils pensent avec leurs chiens. Sous la banquise, les esprits démêlent et coiffent les cheveux des sirènes. Certaines ont épousé des goélands, d'autres séduiront des baleines. Sais-tu que le pôle Nord n'est pas un point fixe ? Il oscille, point errant à la surface. Tous les fuseaux horaires s'y rejoignent, si bien que tu peux, sur le toit du monde, arpenter le jour et la nuit en quelques secondes. La nuit se fait velours. Je ne vois plus les murs, les trous, les failles. Je passe à travers, comme si les rêves avaient pris possession du monde. Quel rêve ? Pourquoi cette question ? Je savais ce que je voulais, mais je n'avais pas d'ambition. Avant que je m'oriente vers mon BTS, ma prof principale a étalé devant moi des perspectives d'études supérieures. Elle me les détaillait comme on décrit une maison en pain d'épices et sucre d'orge. Prolonger mes études ne me disait rien. Mon voyage était ailleurs. J'avais rencontré le père de Sam. La dérive des continents, les aurores boréales, l'extinction des Inuits, la beauté des icebergs, je les garderai pour le dimanche. L'amour, par contre, je ne connaissais pas. Chez moi, on pratiquait l'amour maigre, une espèce de sentiment réduit à des tensions et des attentes. Mes parents ne savaient pas parler doucement. On devinait derrière leurs efforts qu'on représentait quelque chose pour eux, mais comme une flamme sur du bois humide, ça ne prenait pas. Le père de Sam avait des yeux semi-pétillants. Il ne tenait pas en place, ses humeurs non plus. Il sautait de la joie à la tristesse sans prévenir. Sa jambe gauche tiquait nerveusement quand il restait assis. Il conduisait des trains régionaux, pestait contre ses trajets monotones, ses vies réglées sur 7h42 et 18h23, comme la sienne. Il se rattrapait avec la route et sa GTI qu'il bichonnait. Les clés collées aux doigts, il disait
« On bouge, on bouge !»
Son sourire s'allumait en même temps que le moteur, et le mien, en réponse, se reflétait dans le pare-brise. Les jours de congé, on se calait sur les petites routes. Rubans argentés dans les vallées, elles nous entraînaient toujours plus loin, se transformaient en chemins caillouteux, collines tachées de vaches rousses, pagailles de coquelicots, marguerites, boutons d'or, forêts ébouriffées par les vents, cul de sac en haut d'un sommet, horizon pour nous seuls. On évitait les villes, les plaines, les autoroutes. Puis on retrouvait le fleuve qui nous ramenait au point de départ. La route nous grandissait. Elle répondait à des questions muettes. Lui au volant, moi au tracé. Nous aimions nous sentir étrangers aux autres. Notre vie commençait. L'amour est une odeur d'essence. L'amour a les cheveux emmêlés. L'amour dort sur un parking. L'amour avale des kilomètres. L'amour pêche des oiseaux. Je rêve encore de la boîte. Des scènes dans les nouveaux bureaux après la restructuration. Clapier blanc, où il y a juste la place d'entrer et de s'asseoir. Mon chef débarque. Il se pose devant moi avec son sourire d'âne détartré.
La porte. S'il y a une porte, c'est pour la fermer.
J'étouffe sinon.
Tu te disperses, tu travailles mal, tu ressembles à rien, alors t'écoutes ce que je te dis, ok?
Excuse-moi,
mais... Ta bouche aussi, tu la fermes.
Il va pour partir. Puis se retourne.
Et les particules? Ta tête que tu grattes, c'est désagréable à regarder. Tu perds du temps et c'est sale. Tu déposes des particules sur ton clavier, sur ton bureau, sur tes dossiers. Des particules grasses que tu transmets aux autres et qui donnent plus de travail aux agents de nettoyage. Alors que la boîte paye des gels antiseptiques. Alors, va te laver la tête.
Ok, et quand je suis assis sur mon fauteuil, qu'est-ce que je fais des particules de mon cul? Ça, c'est en rêve que je le dis. En vrai, je dis rien. Je ravale. Il disparaît et Dilara s'encastre dans la porte, tout sourire, avec un panier de Haribo.
Cadeau, tournée générale. C'est la direction. Ils sont choux, les petites attentions qui mettent de la couleur et du baume au cœur, j'adore. Mes préférés, ce sont... Ah, je te dis pas, tu vas vouloir me les piquer. Tu préfères quoi? Tagada, Tragibus, Trouf, Apicola, œuf au plat...
Pendant qu'elle énumère... Le panier grouille. Les bonbons se transforment en limaces, sans perdre leur couleur fluorescente. Les ongles manucurés de Dilara pianotent sur l'arceau du panier. Je me demande si eux aussi vont se transformer en gélatine vivante. J'en veux pas de ces merdes. Et toi non plus! Dégage de mon bureau, sinon je porte plainte. Je porte plainte pour empoisonnement moral, pour présence toxique, pour asphyxie, pour injustice, pour contamination, pour essorage, dégage.
Dilara s'en fout. Elle avale les limaces fluo en me regardant avec sa tête de smiley. Laurie a insisté pour apporter les desserts dimanche. Elle ne sait pas venir les mains vides. Sam a repéré des recettes qui l'amusent.
Lapin chasseur, nid du rossignol, tourne-dos enchanteur, la vraie blanquette de Raoul.
Et si on mangeait comme les Inuits, Sam? On part à la chasse sur nos traîneaux. Nos chiens filent dans la nuit polaire. On pêche le phoque au trou de la banquise. On le hisse. On le découpe. On mange cru sa viande. De son estomac, on extrait des moules déjà mâchées. On boit le sang chaud, on suce et on croque les yeux. Et à la fin, on s'essuie les mains dans des ailes de perdrix.
C'est vrai, maman, que les Esquimaux vivent dans des igloos?
C'était vrai. Dans leur village, ils vivaient sous des igloos de pierre et de terre. Quand ils chassaient, ils taillaient des blocs dans la banquise pour se construire des cabanes de glace. Ça n'existe plus.
Ils ont fondu?
Maintenant, ils ont des maisons en bois et des scooters.
Dimanche, on verra les Esquimaux?
Non. Ils habitent trop loin.
Y aura qui alors?
On verra. On ouvrira les portes de la maison et du jardin et on verra. Fenêtre ouverte, griserie de la vitesse. Dans les descentes, l'amour coupait le moteur. Frein à main et tête à queue dans les gravillons. L'amour m'a appris à conduire. Il me voulait souple et nerveuse à la fois. Il aiguisait mes réflexes. Et puis, on a garé la GTI devant la maison. Petit pavillon au crépi couleur sable. On avait des travaux, pas de meubles. On dormait par terre sur un matelas trouvé dans la rue. On a dû le brûler à cause des puces. On avait une maison et on dormait encore dans la voiture. L'amour n'en revient pas. Un espace à lui et tant de murs à la fois. On voulait les pousser, ne pas s'y cogner. L'amour fait tout de ses mains. Coussins, tables, caresses. Il met de la couleur, récupère des objets. L'amour a une sonnette, des conversations de voisinage, un lit à ressort, des câlins dessus, des parfums de fleurs dans le jardin et celui doux de Sam qui passe entre nos bras. Et puis, l'amour freine. Il zappe sur un écran, il s'absente sans prévenir, il perd sa langue. Lui qui savait se confier dans le noir, lancer des réparties joyeuses au-dessus de la table, répondre au gazouillis de Sam, siffler en faisant la vaisselle. Il parle comme on casse du verre. Ou se mure dans un silence glaçant qui électrise la maison, qui finit par déposer un mot sur la table.
Je t'ai laissé la voiture. Je m'en vais. Pardon.
Pour ne pas hurler de chagrin, pour ne pas que ça résonne dans le quartier à travers les cloisons mal isolées, j'ai roulé. La musique et les cris à plein volume. Je voulais que la douleur sorte en mouvement, que le vent la jette contre les montagnes, que la route écrase les souvenirs. Je ne supportais plus la maison. C'était elle la responsable, avec ses murs serrés et ses angles morts. Je les entendais parler. Je mangeais la même bouillie que Sam. Je ne le quittais pas des yeux, lui non plus. Si je pleurais, il pleurait. Je ne faisais pas d'effort. Nous circulions d'un cœur vidé à l'autre. J'ai installé Sam à l'arrière dans son siège. J'ai roulé avec lui. Les ombres des oiseaux planaient sur les champs. Les lignes des avions se consumaient au ralenti. Le soleil jouait sur des pare-brises. Il fallait continuer. J'ai nettoyé les poignées de porte, les objets, les ouvertures, le tableau de bord, les essieux, le volant, tout ce que l'amour avait touché. J'ai construit une cabane pour Sam au pied de l'arbre. Laurie et Tony ont emménagé à côté. Sur la carte dépliée, j'ai changé le tracé. Deux ans plus tard, j'ai revu le père de Sam au Gemini's. Il n'avait pas changé. Sa dégaine. Ses yeux semi-pétillants. Le tic de sa jambe gauche. Il voulait s'excuser et m'avait préparé un chèque. J'ai dit « Ok ». Il a demandé s'il pourrait voir Sam. J'ai dit « Pas tout de suite ». Il a dit
« J'enverrai d'autres chèques ».
J'ai dit « Ok ». Il a baissé les yeux sur la table et a aperçu les clés de la voiture.
Tu l'as gardé ?
C'est tout ce que tu nous as laissé.
Je veux dire, le porte-clés.
J'ai réalisé que c'était la seule chose que j'avais oublié d'oublier. Le porte-clés en forme de globe.
Qu'est-ce que tu fabriques ?
Que fais-tu de tes mains ?
Donne-t-elle des caresses, des coups, des directions ?
Lèves-tu le bras pour signaler ta présence ?
Travailles-tu ?
À quoi sert ton travail ?
Quel est le sens de ta vie ?
Baisses-tu la tête ?
Combien de fois par jour baisses-tu la tête sur ton téléphone ?
Qu'est-ce qui te guide ?
Comment respires-tu ?
As-tu besoin d'aide, de silence, de paysage ?
Entends-tu le pas des loups, des foules, du temps ?
Entends-tu la nuit te parler ?
As-tu quelqu'un à serrer dans tes bras ?
As-tu une famille ? Une famille en dehors de ta famille ?
Aimes-tu faire la fête ?
Qu'est-ce que tu as dans le ventre ?
Qu'est-ce qui te fait rire ?
Qu'est-ce qui tombe sans faire de bruit ?
Se reconstruire.
A répété le docteur. Tout juste s'il ne me sort pas les plans qui vont avec. La truelle, les parpaings et la recette du béton. Il porte sa blouse blanche et son sourire assorti. Il dit
« Faire le point ».
Derrière lui, la vitre, les flocons dansent. Il questionne ma motivation, mon aptitude à reprendre ou pas le travail. Je ne suis pas malade. Je l'étais avant l'accident. Faiblir me faisait peur. Je voulais tenir pour Sam, pour moi. J'étais dans une collision silencieuse. Mon corps, comme une tôle, se froissait. Je ne le voyais pas. Je ne le sentais pas. Je ne voulais pas faire de bruit. Maintenant, c'est fini. Je veux dire, les nausées, les maux de tête, les nerfs à vif. Pour le reste... Je ne sais pas. Le docteur hoche la tête, puis enchaîne.
Il vous faut trouver la meilleure version de vous-même.
Pourquoi meilleure ? Je ne suis pas un logiciel. Le docteur rit. Je l'imagine couvert de neige, parler avec des glaçons dans la bouche. Il me prescrit des gouttes pour dormir. Je n'ai plus de problème de sommeil, je dors très bien dans la journée.
Ce n'est pas une bonne chose de vous mettre hors jeu.
Hors jeu ?
De vous couper de la réalité, de rester isolé.
Je ne suis pas seule. Mes voisins, Laurie et Tony, qui ont gardé Sam quand j'étais hospitalisée, nous sommes restés proches. Dimanche, j'organise un repas avec des invités. Les nuits sont belles aussi. Le docteur acquiesce. Il me propose un prochain rendez-vous. Hors jeu, docteur ? De quel jeu parlez-vous ? La nuit fait cocon. Le pont grince au-dessus du fleuve. La route miroite. Reflet des buées et des ombres. Au détour d'un chemin, j'escalade un muret glacé. Dans un gris confus, une ferme abandonnée. L'herbe blanchie crisse. La chaîne du portail racle comme une cloche fendue. Dans la cour muette, entre des éboulis de pierre, toute une végétation en dormance. Avec paillage, voile, filet. Une rigole suspendue court à travers les parcelles. Le hangar a perdu ses portes.
Je devine outils, bûches, livres, conserves. Le silence épaissit les murs. Pneus de tracteur, canapé défoncé, palettes font cercle autour d'un baril. J'allume le petit bois dans le baril, les flammes prennent vite. Ici, on s'organise. Ici, on se retrouve. Ici, on entend des voix. Sur le mur, peint à la bombe, éclatant, immense et joyeux. Game over. Et puis le vent a tourné. Un poison invisible circulait dans l'air. Le goût dans la bouche, la gorge, des maux de tête, des nausées. La boîte a été rachetée par les Américains. Le nouveau président a débarqué from Houston pour sa visite du site. Dilara bramait à tous les étages.
L'Amérique chez nous. Waouh !
Mais Dilara, qu'est-ce que tu fais dans ta life ? À l'apéro, tu sors des curlies. Ton mari trempe ses frites dans le ketchup. Tes fils fument des Marlboro. Et quand tu t'appliques ton crépi sur la face, c'est avec Maybelline. L'Amérique était chez toi avant que tu respires. C'est vrai qu'il en jetait, le nouveau boss. Il semblait sorti de la télé. Sa visite a eu un effet brumisateur, même chez les syndiqués. Des ateliers au bureau, il se mettait au poste, engageait la conversation sur notre vie en France, insistait sur les transformations de la société, sur nos responsabilités. Et il est parti, laissant derrière lui son magnétisme, son haleine fraîche et la nouvelle équipe managériale.
We keep in touch.
2 ans plus tard, on ne comptait plus les heures et les cernes supplémentaires. Au-dessus de chacun flottaient des menaces. Comme si on nous avait fait avaler un bâton de dynamite. Certains grinçaient des dents, d'autres les sortaient. Moi, je les serrais. Je refusais de voir que mon pacte était rompu. Sur la carte, je n'étais plus ce petit point que j'aimais, mais un petit pion. Un soir, j'étais allongée sur mon lit à l'envers, calée pour regarder la carte du Grand Nord. Je la regardais sans la regarder, j'étais épuisée. Sam venait de s'endormir. Je n'avais pas eu la force de le coucher dans son lit. Sa tête penchait, bouche ouverte. Dans mon sac, j'ai attrapé des Haribo. J'avais faim et la flemme de descendre préparer à manger. J'ai ouvert doucement le paquet pour ne pas réveiller Sam. J'ai mastiqué un à un les bonbons devant la carte. C'est là que j'ai eu un flash, une zébrure de froid dans le dos. Je me suis rappelé cette histoire du pôle Nord. Dans ces contrées glacées et blanches, les Inuits vivaient depuis des millénaires sans se soucier de l'évolution du reste du monde. Ils chassaient pour se nourrir. Le ciel leur servait de montre et de boussole. Sans propriété, sans écriture. Ils étaient reliés entre eux par un sens aigu de la communauté. Par les esprits sauvages de la nature et des animaux. Jusqu'au jour où les Américains construisirent une base militaire secrète à l'endroit même de leur village, sans les consulter, en les expulsant de leur terre. Il ne resta d'eux qu'une population ravagée, vivant dans des préfabriqués au milieu de détritus, les visages blessés par les humiliations et l'alcool. Tous édentés, même les enfants. Ils se nourrissaient principalement de sucre. L'argent dans les poches, plutôt qu'amulettes et têtes de harpon, la jeunesse sans avenir et arrogante tournée en rond, les anciens, découragés, ne savaient plus quoi espérer. En traçant mon chemin, en rêvant à d'autres géographies, je n'avais pas imaginé que je serais moi-même rattrapée par l'histoire, celle qu'écrivent les conquérants de l'ancien monde et du nouveau. Cette invasion bruyante et silencieuse, effrénée et sans pitié. Sous couvert de progrès, comme un feu dévorant, terre, langue, travail, cœur. Cette nuit-là, j'ai rêvé que je chassais le phoque avec les Inuits. Nous en remontions un sur la banquise. On me fit l'honneur de la découpe. Je tranchais le cuir de la peau. Le sang ne coula pas. Le groupe s'interrogeait sans un mot. Les chiens affamés s'approchaient. Il n'y avait rien à manger. La chair n'était qu'une informe gélatine de sucre. Nous nous sommes regardés. Pour survivre, il nous faudrait nous manger les uns les autres. Au réveil, le froid dans le dos me gela tout entière. Ça s'est passé à la cantine, à l'heure où tous les plateaux sont pris, à l'heure où Véronique presse son demi-citron dans son verre, à l'heure où Bruno lance sa blague, où Dilara mange sa crème caramel, où Mathéo rappelle la prochaine réunion syndicale, où Nat mâche sa salade verte. Bruno a lancé sa blague. J'étais en bout de table, je n'ai pas entendu. Tout le monde a éclaté de rire. J'allais demander qu'on me répète la blague quand la terre s'est mise à trembler. La table bougeait, le sol sous ma chaise, l'eau dans le verre. Midi 22 au cadran. Et les rires s'amplifiaient, comme si toute la cantine riait à la blague de Bruno. Nat, en face de moi, me regardait bizarrement. Alors j'ai compris que c'était moi qui tremblais, que la confusion venait de ma tête, que je n'en pouvais plus, que c'était fini. Fini le bus de 7h40, fini la blague de midi 22, fini le brouhaha. Nat s'est penchée vers moi. Elle avait un bout de salade coincé entre les dents. Elle répétait la blague ou la commentait. J'entendais pas. La table a explosé de rire et moi, je me suis levée et j'ai explosé tout court. Ma chaise s'est renversée en arrière. Sur mon plateau, l'assiette de frites. Je les ai balancées, une par une, à travers la cantine. Ça, je ne m'en souviens plus. On me l'a raconté après, à l'hôpital. Comment voir dans le noir? Comment se relever? Comment continuer? Je croyais, comme le docteur, que vivre la nuit était une fuite, un moyen d'éviter de me confronter aux autres et à la parole, ravaler colère et chagrin. Je croyais avoir tout dit en balançant les frites. Je croyais n'avoir plus de place nulle part. La nuit est une réserve naturelle. À l'inverse du jour, elle aime le creux des heures, les pensées volatiles, les idées folles, les lisières. Je ne sais pas si tout est réparable. Le corps englacé n'oublie pas. Mais réanimé, inspirant à nouveau, il se redresse et avec lui, ses lignes de force. Lacets, cercle, horizon. Au pied du pont grinçant, derrière le muret, dans le jardin de Laurie, autour du baril, sur le lit de Sam, pour les voix de la nuit, je déposerai mes invitations. Il est 5h. Le soleil bientôt rosira la neige. Tapis de diamants, haleine bleue, sont feutrés. Dimanche, au crépuscule, nous nous retrouverons. Nos mains s'agiteront autour de la table et des recettes. Nous remplirons nos verres. Nous nous passerons les plats. Nous lancerons des conversations. Nous mettrons en commun, en pagaille, nos récits, nos blagues, nos alibis. Tour à tour, nous ensoleillerons la nuit.
Rêvons-nous plus souvent endormis ou éveillés?
Que devient le rêve si on ne s'en souvient plus?
Savons-nous lire les nuages, les lèvres, les yeux?
Croyons-nous au mystère, aux esprits, aux visions?
À quoi sert notre mémoire?
Avons-nous le sens de l'orientation?
Avons-nous des déclics, des idées, des intuitions?
Comment transformer nos désirs?
La liberté est-elle une alouette, une posture, une gorge déployée?
Pouvons-nous, par l'imagination, creuser l'intérieur de nos rêves,
les rendre concrets, solides?
Préférons-nous la terre sous nos ongles ou des rêves de papier?
Comment se dessine l'avenir?
Peut-on faire confiance à ceux qui le prédisent?
Avons-nous peur de l'incertitude?
Pouvons-nous espérer ce qu'on ne peut pas imaginer?
Pouvons-nous espérer l'inattendu, la surprise?
Saurons-nous changer les plaintes des vents en feux de joie?
Accrocherons-nous des plumes, des feuilles dans nos cheveux?
Nos enfants nous croiront-ils?
Qu'est-ce qu'on décide?
Entends-tu jaillir le fleuve au-dessus de nos têtes?
C'était « Un fleuve au-dessus de la tête » de Karine Lacroix, avec Marie Denarnaud, Olivier Balazuc, Vanessa Bétane, Gretel Delattre, Mounir Margoum et Mathias Zakar. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Christian Lahondès, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation Volodia Serre. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr. Le livre « Un fleuve au-dessus de la tête » est paru aux éditions Quartet.
Les peuples premiers sont nos égaux. Nous ne sommes pas du même monde. Et l'Occident va vers sa perte s'il continue à considérer que la science est synonyme de sagesse. Nous n'avons plus de sagesse. On parle dans ces réunions qui rappellent les effusions radicales socialistes. On parle de la perte des valeurs. Pardonnez-moi, quelle est la valeur que j'entends sur toutes les radios? C'est l'euro, c'est la rentabilité. Bon, se montrer dans une société d'argent. C'est vital, c'est lutte contre le chômage, etc., etc. Mais en fait, nous n'avons plus aucune sagesse. L'Arctique, qui est un espace non seulement mythique, mais nous allons y venir, mystique. Et comme le toit du monde, c'est-à-dire le Tibet, gravement pollué. Il y a là tout de même un signe, peut-être un signal. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'apocalypse est pour demain, mais il serait peut-être temps d'y réfléchir. Et les Esquimaux voient en nous, comme les Indiens, des docteurs Folamour. Nous sommes fous. Nous ne sommes pas capables de respecter cette terre sacrée qui est la nôtre. Donc j'ai saisi très tôt cette folie qui est la nôtre et ce cynisme qui nous habite, attulé, puisque au fait du monde, m'a été présentée une scène shakespearienne à la fin de mon séjour de 14 mois, seul, parlant la langue, vivant ce chamanisme singulier qui était encore le leur, bien qu'ils avaient été récemment christianisés, mais très superficiellement. Des hommes qui sont capables d'aller dans la lune instantanément, qui dialoguent avec l'esprit de l'ours. Et soudain, je vois du haut d'un glacier des martiens, c'est US Air Force. Il était révélateur que US Air Force, qui venait construire la base offensive militaire la plus puissante du monde contre le monde communiste, attulé, avec des avions chargés de bombes nucléaires au cas où la guerre de Corée devait se traduire par un désastre, n'avait pas été réfléchi dans le respect des minorités.
Ja, dat is natuurlijk. Daarom kan je aan de gang. Nog een keer met de koeien.